Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle Mina Tindall. Elle est musicienne. Elle est venue accompagnée d'un autre musicien, Olivier Marguerie. Avec eux, c'est une troisième étape dans cette semaine toute musicale. Et c'est l'étape du milieu. Ça commence. Poteau d'angle est un livre du poète Henri Michaux qui a eu plusieurs vies, a vécu et est paru en plusieurs temps, en plusieurs bons successifs dans le courant des années 70 jusqu'à une édition finale chez Gallimard en 1981. Un poteau, c'est un point d'appui quand on est ivre, quand on est timide, quand on est seul. Et un angle, c'est un endroit qui ne prend pas toujours la bonne lumière, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt et la complexité d'un visage. Dans Poteau d'angle, Henri Michaux interpelle son lecteur et conjugue ses verbes à l'impératif. Autant à lui qu'à nous, il suggère de se méfier du savoir, de n'apprendre qu'avec réserve, et il suggère aussi la musique et la langue comme bonne piste de recherche. Il écrit « Veille périodiquement à te susciter des obstacles pour lesquels tu vas devoir trouver une parade, une nouvelle intelligence. » Il est 16h passé de 1 minute, nous postons cette phrase à la porte de l'émission du jour. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, un Polaroid fait apparaître en direct des cloches qui disent son nom. Vers 16h20, troisième étape dans cette semaine particulière, elle n'est faite que de musique. Hier, Pierce Faccini et Jasser Hajj-Youssef parlaient de leur musique avant de la partager. Lundi, c'était Rodrigo Amarante qui en faisait de même. Aujourd'hui, c'est au tour de Mina Tindall. Il sera question de ses deux disques, de Tarentelle, de Torse Bombé, d'Amazon et de Course Solaire. Et nous l'entendrons accompagné d'Olivier Marguerie. Ceci nous mènera tranquillement à 17h, heure à laquelle nous retrouverons les équipes du 5 à 7. Étape du milieu, on arrive au cœur des choses. La comédienne Aïssa Maïga, qui déballe sa bibliothèque pour vous cette semaine, lit un extrait de son propre texte encore inédit. Le mal d'autrui est un songe, une pièce de théâtre dont l'écriture est en cours. On en écoute un extrait.
J'étais femme sorcière. Tu étais l'enfant. J'étais ta mère, car tu n'en avais pas. Je suis femme sorcière, plantureuse et belle. Je suis ta plus grande peur. Tu deviendras la mienne. Tu m'es insupportable aujourd'hui, et je te dirai demain pourquoi tes gestes maladroits d'enfant méritent en retour claques qui dévissent, morcellent et divisent le corps. Front cabossé qui ne sait plus très bien où donner de la tête, membres lacérés sûrement par le câble devenu fouet, pincements aigus, mes ongles cherchent la chair sous ta peau qui, je sais, se souvient encore pleurer. Tes gestes maladroits d'enfant, disais-je, tu casses un verre, carillon, signal, tintement, hurlant, les éclats coupables, éparpillés, annoncent le commencement de ton quart d'heure quotidien. Immobile, traqué, tu guettes. Pour la bête fauve qui attend, l'erreur vient toujours. Lorsque dans 3 décennies tu auras bien grandi quand même, l'écho de ces mots te restera et tu reviendras. Car ce pays produit des enfants qui viennent demander des comptes à la main qui les a nourris. Je t'expliquerai alors pourquoi j'aurais eu raison de te dire, par amour, à toi qui n'es même pas ma fille, insultes et menaces terrifiantes, ces mots justes qui brûlent l'âme, incendient le corps, calcinent l'ego en devenir. Je suis femme sorcière qui a souffert. Tu étais l'enfant. J'étais ta mère, car tu n'en avais pas. Visage inondé par l'horreur panique, baisse les yeux et offre-moi de me voir transformée sorcière. Mais comment ne pas le devenir, ma fille ? Tu me provoquais. Tu me fixes de ton regard noir, grave, tranquille, vengeresse et silencieuse, dangereuse et calme. C'est ainsi que je t'imaginais. Tu me dis que tu es une femme hantée par d'affreux souvenirs. Mais rien de tout ce que tu inventes n'a existé. Tu le sais. Comment aurais-je pu ? Tu étais l'enfant. J'étais ta mère, car tu n'en avais pas. Aurait-elle fait mieux que moi ? Est-ce qu'une absente mérite le titre de mère ? Va. Va vivre une vie qui regarde devant. Le monde est vaste. Il ne se limite pas aux mensonges éhontés que tu es la seule à croire. Je n'ai jamais levé la main sur toi, je m'en souviendrai. Quoi que tu en dises, je ne t'ai pas laissé de traces. Ou alors j'ai oublié. Excuse, pardonne, efface et retiens ceci. Femme volcan ou bête fauve, ce n'était pas moi, car j'étais une autre. Ce que mon esprit ne parvient à se rappeler, je m'en excuse quand même. Je ne me souviens pas, et je t'intime d'en faire autant.
Aïssa Maïga, c'est un extrait d'un texte qui est encore inédit, que vous signez, qui s'appelle « Le mal d'autrui est un songe ». Et c'est un montage, puisque ça devient un monologue, et si l'on en croit les gestes que vous avez faits, ça n'en est pas. De quoi s'agit-il? Qui est cette femme qui parle?
Alors, il s'agit d'une tragédie qui raconte le parcours d'émancipation, de résilience d'une fille qui devient femme et qui va revisiter tout un pan de son passé familial. Et là, elle va à la rencontre de cette belle-mère qui a été maltraitante.
Et qui lui affirme ne pas se souvenir de cette maltraitance-là. En tout cas, c'est le début de cette discussion.
Ouais, j'avais envie de parler de ce qu'est la maltraitance du point de vue du bourreau et de la victime. Parce que dans tous les témoignages que j'ai pu entendre autour de moi, la plupart du temps, les parents ou les figures parentales maltraitantes sont dans une forme de déni assez fantastique. Fantastique dans le sens où il y a vraiment une part d'irréel dans la faculté du cerveau humain à refouler, oui, véritablement à refouler, à effacer des actes qu'il ne peut plus supporter des années, voire des décennies plus tard. Et j'avais envie d'une confrontation entre une victime qui vient demander des comptes de façon assez frontale et une personne coupable, mais qui est incapable de devenir un être responsable.
Hier, on parlait d'une rêverie qui peu à peu s'assume et qui va vers une autorité au sens d'être auteur de ce que l'on est et auteur de ce que l'on fait. Qu'est-ce qui s'opère comme changement en devenant auteur de ce texte-là et en n'étant plus seulement l'interprète des textes des autres, pour vous ?
Enfin, ce texte, je pense qu'il va être vraiment fondateur pour moi parce que c'est la première fois que j'écris, parce que j'écris depuis un moment, mais dans quelque chose d'assez douloureux, laborieux comme ça. Et là, véritablement, je suis allée vers un lâcher-prise en décidant de ne pas juger du tout, mais alors pas du tout, ce qui jaillissait aussi bien dans la forme que dans la forme qui est donc une forme tragique comme ça, que dans le fond, dans ce qui est raconté. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive vraiment et que du coup, je peux l'assumer là aujourd'hui devant vous, comme ça.
Le fait que ce soit du théâtre, ça s'est imposé plus naturellement que de la poésie, une forme romanesque ou un scénario de cinéma, ou ça aussi, ça vous a surpris?
Au départ, ce sont des monologues uniquement qui sont apparus, avec des personnages très forts, enfin, qui étaient plus d'ailleurs des figures que de réels personnages. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de les faire converser, et du coup, c'est devenu de fait une pièce. Et je suis assez heureuse d'ailleurs de ne pas m'être imposé une forme et de l'avoir laissé jaillir. Je pense que pour la suite, ça va me permettre d'avoir plus confiance en fait, en ma capacité à écrire, tout simplement.
Maintenant que c'est une pièce de théâtre sur le papier ou sur l'écran, est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez une mise en espace de ce texte? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le dites vous-même à l'oral? Est-ce que l'exercice que vous venez de faire là, par exemple, est courant?
Le texte, je l'entends parce que je l'entendais déjà au moment où il est apparu et au moment où je l'ai écrit, pétri, retravaillé. En revanche, non, je ne suis pas du tout sûre d'avoir envie de poursuivre ce travail au-delà de l'écriture. Je pense livrer le texte et puis voir un peu s'il y a des metteurs en scène qui ont envie de réagir à partir de ça. Et d'ailleurs, je serais assez heureuse de découvrir comme une spectatrice lambda le travail d'interprétation qui aura été fait par un ou une metteur en scène et des comédiens.
Quelle musique vous voulez associer à ce texte ?
Nina Simone.
There is a house in New Orleans. Call it the rising sun. And it's been the run of many poor girls. Me, oh Lord, I'm one. If I listen to what my mama said, we had a hard today. Being so young and foolish, my Lord, did a gambler lead me astray. My mother, the tailor, sold
Demain, Aïssa Maïga poursuit le déballage de sa bibliothèque et elle nous lira un extrait de Ménélas Rebetiko Rhapsody, un texte de Simon Abkarian. En attendant, il y a dans ce studio des claviers, des guitares et des êtres chantants. C'est une merveilleuse raison de fabriquer des Polaroids en direct. Ce sont maintenant des points de lumière courageuses, sous la paupière, persistants. Ce sont des cloches, il faut les cogner. On reprend. C'est maintenant un pré, vert clair, à l'aurore de l'été, dans lequel s'étendent des draps de nuages. Il faut traverser le pré et réclamer la fraîcheur d'une église païenne. Elle pousse la porte, avale la fumée de l'encens comme celle d'une première cigarette, à la dérobée, trouve le banc le plus usé, le plus en bois, défigure les icônes, les défis, leurs souris, ce sont des princes amoureux. Tout ce qui est en marbre fond quand elle s'assoit. Elle s'assoit. Elle ferme les yeux. Sous la paupière, ces ronds de lumière persistantes et courageuses, ce sont des cloches, il faut les cogner. Il faut ne pas se contenter du premier écho et cogner encore, gong encore, jusqu'à ce que le soir décline. Ouvrir les yeux maintenant, considérer ce que la lumière colorée des vitraux allonge sur le sol avec amour. Poser contre la pierre une oreille et à vrai dire le faire comme contre un coquillage. Que reste-t-il de nos noms quand ils sont cousus de lumière colorée et appuyés sur des bancs? Il reste des cloches dans les campagnes chaudes, des cloches qui bercent les vieilles vaches à l'étable, des cloches qui annoncent, des cloches qui répètent. Il reste ce que l'écho des cloches qui furent frappées par d'autres veut bien articuler au présent. Quand le vieux roi des cloches apparaît, ce bossu calme et savant, ne ferme pas la porte mais demande plus, demande pareil. Demande qu'il t'apprenne et traverse le pré à l'envers.
Que leur train s'appelle. Je me souviens.
Pour ce Polaroid, Mina Tindall et Olivier Margery, ils interprétaient un petit bout de Bells, un titre extrait du premier album de Mina Tindall, Taranta. Puis Taranta, extrait lui de Parade, le disque à paraître à l'automne. Ils restent avec nous jusqu'à 17h pour parler de ces deux disques et pour faire de la musique. Quelle joie!
C'est triste d'avoir des utilisations de la musique.
Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment de cette semaine au cœur de laquelle se tient la musique. Lundi, Rodrigo Amarante nous épelait son nom entre France, Brésil et États-Unis. Hier, Pierce Faccini et Jasser Hadjioussef se retrouvaient sur un seul et même horizon pour une communion entre la viole d'amour de l'un et la voix et la guitare de l'autre. Aujourd'hui, c'est le jour du milieu, le jour du centre, où se rejoignent soleil et lune dans 1000 danses rituelles, 1000 parades. Parade est le titre du nouvel album de Mina Tindall, à paraître en octobre. La parade, c'est un évitement, on part un coup, on se protège derrière un paravent. Mais la parade, c'est aussi une façon très sensuelle et très colorée de se déployer pour le pan, de se réinventer devant l'embûche. Ce disque réclame la peau avant la langue, la peau avant les mots, ou la peau avec les mots, comme on dit que le printemps arrive avec l'hirondelle. Tout aérienne que soit la voix, il y a quelque chose de plein pied dans ce disque qui demande d'écouter autant que d'être entendu. Un nouveau corps qui pèse affirme qu'il y a quelqu'un aux commandes qui tape du pied pour la danse. Il y a quelqu'un qui bombe le torse pour prendre tous les rayons de tous les soleils, et c'est une femme. Quand la transe arrive au détour d'un titre, elle arrive par le centre et fait frissonner les extrémités. On va donc commencer par les extrémités. Mina Tindall, bonjour.
Bonjour Marie.
On a dit qu'on commençait par les extrémités. On entend ici un extrait d'un film. C'est un documentaire sur la tarentelle, un film qui date des années 60 et qui va nous permettre de faire tranquillement le pont entre deux disques, puisque le premier s'appelle Taranta. C'est le titre d'une chanson qui ne figure pas sur le premier disque, mais qui figure sur le second, qui lui s'appelle Parade. Parler un peu de la tarentelle, qu'est-ce que cette musique et cette pratique-là a à voir avec la vôtre de musique et de pratique ?
Alors, c'est déjà une histoire plutôt personnelle parce que j'ai rencontré une personne extraordinaire qui est une danseuse de ces danses folkloriques italiennes et qui m'a un petit peu initiée à tout ça, à tout ce monde-là. Et après, il y avait quelque chose qui m'a fascinée dans l'histoire de ces femmes-là parce que c'était quelque chose donc qui se passait vraiment dans le foyer où c'était pas censé être des musiques qui sortaient du foyer, de l'espace vraiment du chez-soi et qu'il y avait en même temps ce moment une fois par an où là on les mettait sur la place publique où tout le monde venait chanter et où toutes ces femmes qui étaient en fait je pense des grandes dépressives se retrouvaient à rentrer dans des transes un peu comme je pense dans des musiques africaines, c'est marrant que ça vienne du sud de l'Italie. Et finalement, là, elles étaient les reines, enfin, c'est ce que je raconte dans cette chanson, mais elles étaient un peu les reines de la journée pour une seule journée. Mais elles étaient quand même considérées comme un peu les vraiment marge de la société. C'était aussi les femmes qu'on sortait juste du foyer pour cette journée. Et je trouvais ça magnifique que ça soit... Enfin, il y a quelque chose de très fort de ce que ça raconte de la condition féminine, de la folie, finalement de l'art aussi, puisque c'est... essayer d'adopter une forme artistique pour exprimer quelque chose qui est vraiment, alors là, les tripes, quoi. Et j'ai toujours trouvé ça aussi très drôle avec une sorte d'hypocrisie de la société qui disait que c'était parce qu'elles avaient été piquées par des araignées, ce qui était absolument pas vrai. Enfin, tout le monde le savait très bien. Et puis en plus, la fameuse araignée, quand on voit sur les gravures et tout, qui est censée avoir piqué, n'est pas vénéneuse. Donc, c'était vraiment tout ce qu'on raconte, le mythe autour de finalement les gens qui parfois mettent un petit peu surprennent ou mettent mal à l'aise ou voilà. Et donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée et puis c'est toujours ce deuxième disque en fait quand même une histoire de femmes qui fait pas qui sont dans la folie du tout, au contraire là il y a une sorte de effectivement c'est plus solaire, il y a plus une libération, une ouverture, mais il y a quand même toujours quelque chose de l'ordre de pas de l'absurde mais de la oui de la lutte. Je pense que je trouve toujours un peu ça difficile en même temps que c'est une grande joie quoi. C'est les deux en même temps. Donc,
Est-ce que c'est une musique que vous avez éprouvée en direct, en Italie, dans les Pouilles ? Est-ce que vous avez senti cette musique physiquement ?
Moi, je l'ai sentie grâce... Aujourd'hui, c'est un petit peu comme le fado. En fait, ça devient extrêmement difficile de trouver quelque chose de typique. Maintenant, c'est devenu la Notte della Taranta. C'est devenu une sorte d'énorme foire où je ne sais pas combien il y a de... Je crois qu'il y a 150 000 personnes qui viennent. Donc, c'est devenu un festival. C'est Woodstock, quoi. Donc aujourd'hui, c'est presque, vu que c'était vraiment quelque chose qui se passait dans les maisons, dans les foyers, dans les petits villages, en fait, c'est déjà galvaudé à partir du moment où ça est rendu public, où ça a été connu. Et même ce film-là, en fait, est un des seuls films qu'on a de comment ça se passait dans les années 60. Et donc, c'est pas... Moi, je l'ai éprouvé par une de mes amies qui, justement, elle est née en Suisse, mais toute sa famille vient vraiment de cette région du Salento, dans le sud de l'Italie. Et donc, elle l'a éprouvé par presque retour à ses racines. Elle a presque fait un travail anthropologique sur ça et elle fait danser les gens. Donc, je l'ai éprouvé, mais de façon, aujourd'hui, de façon pas ricochée, quoi. Et puis, c'est plus les folles de l'époque, mais les personnes qui viennent à ces courses sont des femmes. On sent qu'elles s'accrochent à cette journée-là par mois comme quelque chose qu'elles rateraient pour rien au monde. Donc finalement, je l'ai rééprouvé aujourd'hui, mais différemment.
C'est étrange que vous utilisiez le mot « éprouvé par ricochet » parce que dans ces deux disques-là, il est question d'écho, il est question de choses qui s'entendent ou de choses qu'on doit entendre ou de voix qui viennent parler, mais jamais forcément directement. Et c'est aussi étrange de vous entendre parler d'une musique qui sort du très intime pour aller au dehors. Est-ce que c'est une façon de fonctionner qui est facile pour vous, de faire sortir de la musique au dehors ou au contraire qui vous demande une lutte profonde ?
Alors, faire sortir de la musique, pas du tout. Par contre, peut-être la réécouter après, une fois qu'elle est alors, ça ne sera pas posé sur le papier ou jeté sur le papier, mais donc sur un logiciel de musique. Mais il y a quelque chose... mais je pense que beaucoup moins sur ce deuxième disque, justement, où il y a quand même une chanson qui s'appelle « I Command ». Donc, il y a une sorte de prise de parole qui est beaucoup plus libérée. Déjà par la rapidité avec laquelle on l'a fait, il a presque été écrit cet été et enregistré à l'automne avec Olivier, justement, Marguerite qui est là. Et donc il a suivi toutes les petites étapes. À chaque fois que je faisais une chanson, je lui envoyais le soir. Et on est resté dans une sorte d'excitation et de sursaut dont moi j'avais besoin parce que le premier disque que j'aime beaucoup a été fait avec JP Nataf, où là la démarche avait été, parce que c'est le premier, parce que c'était les conditions dans lesquelles on le faisait, mais très longue à accoucher. Et là, je pense que j'aurais absolument pas eu... j'avais pas besoin de réfléchir. J'avais une envie justement de ne plus réfléchir et de faire quelque chose qui soit un petit peu plus viscéral et un peu plus terrien et un peu plus sensuel. Et donc, j'ai bien aimé me dépêcher là-dedans. Après, sur le... C'était pas douloureux, justement, ce disque-là. Il a été... c'est un peu le disque de la joie, quoi. Enfin, en tout cas, de la libération. Je sais pas trop pourquoi, mais... Après, il y a toujours plein de choses qui sont douloureuses, même si c'est un disque plutôt joyeux, il y a certaines chansons extrêmement tristes. Il y a effectivement des règlements de compte. Alors ça va être une petite voix interne qui va venir me rattraper aujourd'hui et parler de quelque chose du passé. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours c'est peut-être tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête qui est parfois un peu douloureux, mais la musique c'est quand même l'aspect le plus facile de tout ça.
Et cette double face est totalement contenue dans le titre que vous choisissez pour le disque, puisque parade, je le disais en introduction extrêmement rapidement, mais c'est vraiment un mot qui est polysémique et qui entraîne à la fois du côté de l'évitement et à la fois au contraire du côté d'une exposition très sensuelle. Quand on parle de la parade du paon, c'est vraiment toutes les plus belles plumes, c'est tout ce qu'on a de plus beau dehors. Comment vous l'avez trouvé ce mot-là ?
Mais alors j'ai cherché, donc j'ai fait tout le disque, j'avais pas de titre, donc je pensais même à un moment, justement à cause de cette impression d'un peu de liberté, j'avais pensé à Nascimento, qui est aussi un des noms de mes chanteurs préférés, Milton Nascimento, qui est un Brésilien. Et puis je me suis dit, oh, c'est dommage, Taranta, enfin voilà, ça faisait aussi un petit peu ces sonorités latines. Et puis j'aimais bien, mais il n'y avait pas forcément ce déclic. Et puis en fait, je relisais Poteau d'angle, justement, de Michaud, avec la phrase avec laquelle tu as commencé l'émission. Et je suis tombée dessus, et il a cette façon, lui, d'avoir, je trouve, c'est très, très, très musical, sa langue poétique. Et surtout, il fait rebondir les mots. Il y a une façon comme ça de quand on les voit, baobab, parade. Et tout d'un coup, moi, parade, il m'est apparu. J'ai tout de suite fait je me suis dit que c'était ça, en fait. C'est comme quand tu t'attends quelque chose et tu dis j'attendrai quand j'aurai le sursaut, quand ça sera la bonne idée. Et là, tout d'un coup, ça m'a paru évident. Et justement, par tout ça, c'est qu'il y a un côté, c'est d'abord pour moi la célébration, c'est d'abord la joie, l'excentricité, le côté. Fier, ensuite, le côté d'essayer de parer les coups, de faire ça, parce que finalement, on n'a pas d'autre façon de faire, quoi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de sorte de la botte secrète pour aller mieux. Et c'est aussi, effectivement, la parade nuptiale, toute une sorte de mascarade de séduction qui est pas... c'est pas tant la séduction que tout ce qui est qu'une sorte de chant d'amour de l'animal, quoi, qui est aussi fait pour essayer d'aimer et d'être aimé. Donc, je trouvais que ça, c'était magnifique, quoi. Et après, c'est un mot qui a déjà été utilisé, en fait, pour plein de grands, que ce soit un ballet russe ou un album de Prince et tout. C'est drôle, parce que j'avais quand même l'impression d'emprunter aussi à une grande lignée. Mais j'étais contente d'ajouter ma parade à tout ça.
Mais c'est très souvent, quand on écoute votre musique, on a toujours l'impression de quelque chose qui vient de... beaucoup plus loin que le présent. On a toujours l'impression que ça s'inscrit dans une lignée qui est très ancienne, qu'on a du mal à saisir, qu'on a aussi du mal à saisir géographiquement, et c'est tant mieux. Mais c'est comme si c'était des familles, des très très vieilles familles. Vous dites souvent, et dans les chansons et ailleurs, que vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ces différents endroits ?
La ressemblance, justement. Je pense que c'est exactement le... moi, j'aime bien. Ça m'est arrivé comme ça avec des gens que j'ai rencontrés. Et J.P. Nataf, il y a exactement eu ça. On s'est vus, on a pris un café à 8h du matin à Pigalle la première fois qu'on s'est rencontrés. Et c'était comme si on s'était connus depuis toujours. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Alors après, on croit à la métempsychose, à avoir plusieurs vies. Je ne sais pas si je suis... combien de vies j'ai eu avant. Mais je pense qu'avec certaines personnes, il y a des sortes de... Des personnes ou des lieux, il y a des sortes d'évidences où tout d'un coup, on ne peut pas l'expliquer, mais on a l'impression juste de s'y reconnaître. Et je pense que comme tout le monde, il y a une sorte de quête d'identité, de savoir qui on est, qui on veut être. Et dans la musique, moi, en même temps, c'est exactement ce rapport-là que j'ai, puisque quand une musique, Dieu sait si je tombe amoureuse régulièrement de musiques qui ne sont heureusement pas les miennes, et c'est comme si c'était des échos. Il y avait une chanson qui s'appelait Écho comme ça sur ce... premier album qui parlait de quelqu'un, mais c'était cette façon de chercher toujours ce qui en fait ricoche, quoi. Ce qui permet de mieux se sentir en picotant l'épiderme, quoi. Il y a quelque chose de... Voilà, alors après, c'est peut-être juste pour aller... C'est pas forcément parce qu'on est des grands paumés, c'est pas forcément ça non plus, parce que finalement, je pense que tout ça pèse, mais il y a... Je sais pas, il y a aussi une phrase de Machado là, qui disait, je sais plus comment elle fait en espagnol, mais que le caminante, el camino se hace caminando, ça veut dire que on ne sait jamais vers où on va, mais c'est finalement à chaque pas qu'on se rend compte du chemin qu'on est en train de prendre. Et il y a quelque chose comme ça d'une vie très empirique, et soit, mais dans ces cas-là, je veux bien ne pas être croyante, mais dans ces cas-là, faut être très sensible et très ouverte au moindre truc qui se passe, quoi, parce que on peut prendre n'importe quelle direction.
Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui se passe à l'écoute de Parade, l'idée de quelqu'un qui prend une direction, qui prend la parole, qui pose le pied sur une nouvelle terre, qui, en effet, je ne sais pas, j'allais dire, dégage les épaules et accueille une forme de lumière. Il y a quand même un morceau qui s'appelle « I Command ». Et j'ai mis entre parenthèses très discrètement tout à l'heure dans l'introduction « Tout ça, c'est une femme qui le fait ». Ça me paraît difficile de le mettre... moins qu'entre parenthèses, ça paraît être quand même très important dans ces deux disques-là, l'idée du féminin. Je ne sais pas exactement par quel bout le prendre, mais on a l'impression que c'est très là quand même.
Alors, je ne suis pas du tout féministe, mais c'est très drôle parce que plus ça va... Alors, j'essaie de me rendre compte, bon, en même temps, ça se fait comme ça, mais bah, je l'ai fait avec Olivier et Marguerite, premier disque avec JP Nataf. Donc finalement, il y a quand même la figure masculine, et ne serait-ce que dans la création, est quelque chose de capital. Donc il y a ce côté peut-être juste du yin et du yang, d'aller chercher quand même l'opposé de soi. Et après, en même temps, je sais aussi que pour d'autres choses, pour un autre type d'expression, que ce soit faire les pochettes, là où j'ai demandé à une amie brésilienne qui s'appelle Indira Dominici, qui m'a fait, on est en train de faire toutes les pochettes. En plus, c'est parti par peindre de la pellicule Super 8. Donc, c'est un travail très artisanal, où j'aime bien que ça sorte vraiment des mains, quoi. Une autre amie, cette amie donc, pour la danse, qui m'inspire depuis déjà plusieurs années, avec qui j'aimerais faire des choses. Chanty Massoud qui là vient de me faire un super clip où je me retrouve à chevaucher un marsouin où c'est complètement délirant, et là c'est son univers à elle, et je lui ai vraiment demandé de se laisser complètement inspirer, de parler de ce qu'il a. Mais ça, la sensibilité féminine m'intéresse. Je pense qu'il y a quelque chose de... Alors quand on parle d'écho ou de résonance, c'est sûrement que j'ai été élevée par des femmes, c'est à l'intérieur de moi. Quand tu parles d'un truc qui peut-être remonte à il y a longtemps, c'est que finalement c'est quand même ça qui coule dans mes veines, quoi. Je sais, les femmes me parlent beaucoup. C'est surtout que je trouve que leur courage est toujours aussi plus choquant, plus bouleversant. Il y a quelque chose de, peut-être à tort, hein, c'est pas parce que le courage masculin est aussi très fort, mais là, j'ai aussi une amie qui vient de... Je t'en ai parlé dans certains sujets que je voulais aborder. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « Bienvenue à Colomérie », qui est super. Elle s'appelle Ekat Vergopoulos. Et je trouve ça génial. Je connais beaucoup de femmes qui commencent, par exemple, passer la trentaine, à se lancer dans une nouvelle carrière, ou tout d'un coup se mettre à écrire, ou tout d'un coup se mettre à danser, ou tout d'un coup se mettre à... je sais pas, à faire des films. Il y a quelque chose de l'ordre du... qui est parfois même tardif, je trouve que... C'est comme si ce n'était pas les mêmes temporalités. Il y a quelque chose qui est fascinant, je trouve. Et puis dans ce courage, quoi, il y a quelque chose. Ça devrait être la courage, pas le courage.
Vous êtes venu avec Olivier et Marguerite, qui dort près du piano et à qui on va demander de se lever doucement parce qu'on va vous écouter jouer plusieurs chansons.
Holy chains around my feet, I love them as I'm losing control. You came to me barefoot and I Et on parle du froid, on parle de Venise, des hommes, des rois, et on se déguise ensemble au pain. C'est les étés contre toi. J'ai décidé d'éviter d'hériter ma donne quand tu dansais, de peur de tomber, de te relever. La 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 la. Je veux
Tindall sur France Culture, accompagné par Olivier et Marguerite qui viennent de jouer pour vous Ta peau et Madone, extrait de l'album à paraître Parade.
Elle me dérange, de s'emboîtant mieux. Rêver les mots de soi, de moi au-dessus de ça. On nage, je frise les fous, j'engage, je donne la fièvre aux vieux seins, j'en cache qui me suit des yeux. De corps en grève, oubliant mieux. Tout est à l'eau, à l'envers. L'envie de les bonbons de grâce timide. Oublie pas, c'est l'âge, je donne ma langue au vieux sage en place. Fille de mes voeux.
Mina Tindall avec le titre Pan, extrait du disque Taranta, premier disque accompagné ici par Olivier Margueri sur France Culture. Pour pas la peine de crier, je les invite tous les deux à laisser leur guitare doucement et à venir nous rejoindre pour terminer l'émission à la table. Précédemment, on avait entendu des extraits du disque Parade apparaître à l'automne et réalisé par... Co-réalisé ?
Co-réalisé, on peut dire.
Olivier Margueri. Olivier Margueri qui va pouvoir répondre avec sa vraie voix puisqu'elle va venir s'asseoir à la table avec nous. Peut-être pour parler du dialogue ou du travail à deux puisque précédemment le Taranta était dialogué et travaillé à deux avec JP Nataf. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Mina Tindall. Cette fois-ci, c'est avec vous, Olivier Margueri. Mmh. Comment ça s'est passé, l'échange, ou comment se travail-là s'est mis en place? Tout à l'heure, vous disiez, Mina Tindall, que vous envoyez les chansons une fois, quasiment une fois sorties. Et comment vous réceptionnez ça et qu'est-ce que vous en faites directement?
En fait, le travail sur le disque s'est fait de façon assez naturelle. dans le sens où avec Mina Tindall, on s'était mis à travailler ensemble sur la partie concert, en fait, sur la tournée d'avant. Et donc, on avait appris à se connaître, appris à savoir un peu ce qu'on pouvait s'apporter l'un et l'autre, je pense. Et donc, au moment où est arrivée la question du prochain album, elle m'a un peu naturellement demandé, je crois. Enfin, c'est assez naturel. Et en fait, il y a eu comme un truc assez continu, en fait. Moi, je n'ai pas senti de rupture réelle entre le moment où on arrêtait de faire des concerts et le moment où on commence à travailler sur le disque. Pour moi, c'était le même moment, presque. Et il y avait déjà donc, pas mal de chansons que j'avais déjà entendues, qu'elle m'avait un peu jouées, qu'elle m'avait fait écouter. Et donc là, il y a eu ce moment un peu... On s'est dit, bon, bah, c'est parti. Et elle m'envoyait effectivement ses premières démos et il fallait que je réagisse. Écouter des démos, c'est difficile parce qu'il y a plein d'intentions qui sont posées par le compositeur. Il y a aussi plein de choses qui ne sont pas encore là. Et donc, il faut être capable d'imaginer, il faut être capable de se demander si ce qu'on nous donne tient la route et va tenir la route à un moment quand ça va être développé, travaillé et tout ça. Et donc, c'était la question qu'on se posait à chaque fois. Et puis, on en parlait rapidement. Moi, j'ai eu un tout petit débrief sur la chanson en disant « Bon, ça, j'aime bien, ça, c'est super. Ça, il faudra peut-être le retravailler et tout ça. » Et donc, il y a eu tout ce temps-là qui était un peu sur l'été, qui a précédé le début de l'enregistrement. Et après, il y a eu vraiment le moment du travail où tous les deux, où on a pris chaque chanson en se disant « Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la travaille ? Qu'est-ce qu'on garde de tes démos ? Qu'est-ce qu'on refait ?»
Comment vous glissez vos pieds dans ces souliers-là ? Parce que, comme vous dites, une démo ou l'ébauche d'une chanson, c'est plein d'intentions. Mmh. Et il faut que vos intentions à vous ou ce que vous entendez viennent se glisser, mais ne se substituent pas non plus, j'imagine, à ce qui a été imaginé ou senti par Mina Tindall. En même temps, il faut être force de proposition. Ça se parle ou ça s'écoute ? Est-ce que vous vous dites des choses ou est-ce que vous vous envoyez des choses ?
Bah, il y a vraiment un travail d'équilibriste. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est entre... ça pouvait pas être mon disque, ça pouvait pas être le disque d'Olivier Marguery, c'était le disque de Pauline, de Mina Tindall. Et en même temps, elle me demandait d'apporter des choses. Donc, il faut trouver à chaque fois la bonne façon de se... la bonne présence, le bon endroit où être. Moi, j'avais déjà fait ce travail quelques fois. Alors déjà avec des groupes dans lesquels je joue et avec d'autres gens. Et c'est à chaque fois différent, en fait. Il faut vraiment trouver sa place. Il y a des gens qui sont très en demande de propositions de ma part ou de la part du réalisateur. D'autres qui savent déjà exactement où ils veulent aller et ils veulent juste être confortés dans leur choix ou des choses comme ça. Pauline, il y avait un vrai dialogue, je pense. Elle avait des idées qui étaient déjà là dans les démos, des envies. Et elle me disait, voilà, je veux que ce soit comme ça, je veux qu'on trouve cette couleur-là. Et puis à moi, après, de proposer des choses dans ce sens-là.
Ça passait par quel mot, Mina Tindall, Pauline, je ne sais plus très bien comment vous vous appelez du coup, mais c'était des couleurs quand vous dites je voudrais qu'on aille à cet endroit-là avec cette chanson, ça passe exactement. Comment vous réussissez à faire passer ça auprès d'Olivier Marguery ?
Mais je crois qu'en fait, si j'ai demandé justement à Olivier de façon très naturelle, c'est qu'on a passé effectivement 2 ans sur scène à ce que ça soit très naturel et à avoir exactement les mêmes. À écouter le même genre de chansons dans le camion, finalement même à faire de la musique pendant 2 ans ensemble. Donc je pense qu'on s'imprègne un petit peu l'un l'autre. Et effectivement, avoir ri, s'être excité sur les mêmes genres de musique pendant les 2 dernières années fait qu'on sait qu'on était raccord sur les envies. Et donc, en fait, c'est vrai que, en fait, il a ajouté des choses à des moments sans me demander, mais à chaque fois, mais c'était vraiment par... la plupart des choses, on les a faites ensemble, j'ai l'impression. On le savait, enfin, disons, quand il allait faire ça, on était ensemble et je savais que... Enfin, je sais pas, c'est comme une sorte de métalangage. On n'a pas vraiment eu besoin de communiquer par même... Moi, souvent, je fais des références et elles sont toujours fausses, en fait. Et lui, il comprend. Non, mais lui, il sait parfaitement. Donc, si j'arrivais avec quelqu'un qui ne me connaissait pas, il se dirait... Je dis, moi, je veux un truc hip-hop, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Mais lui, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est parce qu'on avait justement cette complicité d'avoir passé 2 ans sur scène ensemble qu'il savait exactement ce que je voulais dire. Donc, en fait, oui, je parlais par métaphore et tout ça, mais ça n'avait aucun sens. Mais c'est comme s'il devinait un petit peu, de toute façon, vers où je voulais aller. Parce qu'il traduit, donc c'est super.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le camion, puisque vous dites avoir ri et vous êtes ému de musique ensemble ? Qu'est-ce qui a nourri vos oreilles pendant ces 2 ans et j'imagine du coup traverser la réalisation du disque ?
Beaucoup de choses.
Ouais, mais j'ai la fâcheuse habitude de tomber amoureux de chansons extrêmement populaires et assez mauvaises, mais qui me plaisent parce qu'il y a un refrain très pop.
Ou je donc qui doivent être bonnes à un certain endroit quand même.
Que forcément j'adore, fatalement. On a beaucoup écouté donc Zao. Qui est cette chanteuse de R&B un peu horrible, qui a fait ce titre qui s'appelle C'est chelou. Et donc on l'a beaucoup écouté. Mais en fait, le
moi,
truc.
Moi, je
ne
dirais pas horrible.
Horrible.
Non, mais... justement, puisqu'on était tous en pamoison devant cette chanson. Donc non, elle n'est pas horrible. Elle est justement assez puissante, cette chanson. Mm. Mais on n'a pas du tout écouté que Zao.
Non, on n'a pas du tout écouté que Dao. Non, en fait, la force de ce groupe, c'était qu'on était tous très amateurs de musique et très amateurs de plein de choses. Donc, on aimait bien se faire découvrir des choses. Et on était aussi très copains. Donc, quand on arrivait dans le camion, on avait envie d'écouter de la musique ensemble et d'en parler et tout ça. Mais on a écouté plein de choses. On a écouté à la fois des choses qui sortaient, qui étaient dans l'actualité du moment. Je ne sais plus, des trucs genre Moderate ou des trucs comme ça. Et aussi beaucoup de choses un peu des classiques. Pauline, elle aimait bien nous faire découvrir des chansons italiennes, par exemple. Donc, dès qu'elle allait en Italie, elle ramenait des CD et puis elle nous les mettait. Ils ont écoute ça, c'est génial. Là-bas, ils écoutent tout ça. Ou de la musique brésilienne, des choses comme ça.
Est-ce qu'il y avait de la musique en français? Vous venez de jouer, je ne sais pas si c'est un hasard dans votre choix, des musiques où on vous entend chanter en français, Mina Tindall, et dans ce, majoritairement, je veux dire, et dans ce disque, le français est fait une arrivée un peu plus massive que dans le précédent. Par quoi s'est passé ce petit virage?
Et ben, j'ai pensé, même tout à l'heure, dans le choix des chansons, c'était absolument pas conscient. Donc, c'est vraiment que là, c'est parce que Bon, déjà, on a une formule très réduite, donc il fallait aussi essayer de trouver les moyens de que ça sonne le mieux possible avec peu d'instruments. Mais moi, j'aime toujours écrire en anglais, j'aime toujours écrire en français. Je rêve de faire une chanson en italien, mais je ne parle pas italien, donc il va falloir que je travaille un petit peu dessus. Mais c'est une musicalité... disons que c'est peut-être beaucoup plus ludique aujourd'hui pour moi d'essayer de faire chanter le français et de le faire... j'ai presque envie de dire danser, mais parce qu'il y a quelque chose de qui est presque comme une danse, je trouve, quand on, enfin, en tout cas je suis un petit peu disciple de J.P. Nataf forcément, et j'aime bien cette façon de c'est très visuel presque la façon d'écrire de J.P. et moi la mienne qui sera à travailler encore et tout, mais il y a quelque chose de plus marrant et plus ludique dans le choix des écritures en français. Il y a aussi un défi plus grand.
Nina Tindall, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Olivier Marguerite d'avoir été avec nous. Parade, c'est le nom du nouveau disque qui paraît à l'automne?
Oui, en principe.
Pour écouter cette émission et celle qui compose la série musicale de cette semaine, vous pouvez le faire sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de manière à les garder chez vous toute votre vie. Aux manettes aujourd'hui, c'était Nadège Antonini et Bruno Mourlan. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec-de-Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. On sera là demain, même heure, même signal, et dans un instant, le 5 à 7.